Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, comme chaque mercredi à 17h30, voici le magazine USTL Info. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Stéphane Debièvre, qui est professeur de mathématiques à l'Université de Lille. Bonjour M. Debièvre.
Bonjour.
Alors, les mathématiques, c'est une science qui remonte à quand ?
À l'aube de l'humanité. Je pense que les hommes ont toujours compté et regardé les formes dans l'espace. Et donc, on peut penser que comme l'homme a toujours fait de la musique, a sans doute toujours dessiné, il a aussi toujours fait des mathématiques. Il s'est toujours interrogé, il a toujours fait de la philosophie et de la science. Et je pense que dans ce sens...
Alors... Au niveau des mathématiques, en tant que science, est-ce qu'il y a des civilisations, des sociétés qui se sont investies et qui ont fait connaître cette science au travers le monde ? Quelles sont les premières ?
Il y a une école mathématique chinoise qui s'est établie très tôt. Nous avons une experte d'ailleurs, Madame Breillard ici à Lille, qui est experte des mathématiques chinoises, de l'histoire des mathématiques chinoises. En Europe, on a tendance à l'oublier un tout petit peu parce que nous aimons bien remonter aux Grecs. Tout le monde connaît Euclide et Pythagore. Donc les mathématiques européennes, je pense qu'on peut les situer le départ avec les Grecs. Puis il y a eu un oubli partiel, en tout cas, pendant le Moyen-Âge. Et les mathématiques arabes ont énormément contribué. Et d'ailleurs, notre collègue Mohamed Djebbar, qui est maintenant à la retraite, est un grand expert des mathématiques arabes. Voilà, ça c'est en tout cas trois grandes écoles qui me viennent à l'esprit.
Alors, qu'est-ce qui différencie ces trois écoles ? Est-ce qu'elles ont des logiques différentes ou... des méthodologies différentes ?
Je ne suis pas du tout expert d'histoire des mathématiques. Le plus simple pour moi, c'est de dire que non, c'est tout de la même chose, c'est D'accord. Des mathématiques, c'est des hommes qui ont raisonné, qui ont réfléchi sur, je le disais tout à l'heure, les formes et les nombres, la quantité. Et bien sûr, il y a des mathématiques qui se sont développées ultérieurement, les derniers siècles en particulier. Mais bon, les écoles... sont différentes par ce qu'ils ont pu trouver, mais je pense qu'on...
Donc, la culture mathématique est universelle ?
Oui.
Et il y a une universalité, on peut dire, entre les gens qui y travaillent à cette recherche ?
Oui, aujourd'hui, c'est sûr. Oui, aujourd'hui, c'est sûr. D'ailleurs, je pense que si vous regardez sur la page web de l'UFR de mathématiques, sur les noms des mathématiciens, vous allez voir que nous sommes. C'est une communauté très internationale. Mm-hmm. Je pense que j'ai pas fait le compte, mais 2/3, si ce n'est pas 3/4, des mathématiciens de l'UFR de mathématiques et plus globalement sur le campus sont d'origine étrangère. Certains ont eu une formation en France à partir parfois du premier cycle, parfois du troisième cycle. D'autres sont venus plus tard après leur formation. Mais le monde de mathématiques aujourd'hui est très international. C'est partout en France pareil et c'est partout dans le monde pareil. Les mathématiciens bougent. C'est un métier international par sa nature, comme d'ailleurs, en principe, toutes les sciences.
Qu'est-ce qu'on peut encore chercher, voire trouver en mathématiques au XXIe siècle ?
Mais ça, c'est une question qu'on entend souvent. Dans l'image populaire, je pense, des mathématiques, les mathématiques se résument justement à l'étude des nombres. Un mathématicien, quelqu'un qui sait compter, de préférence rapidement, mm-hmm. et bien, parfois, et qui regarde pour le reste les formes dans l'espace, la géométrie. Et donc, comme on a du mal à s'imaginer qu'il y a encore des questions afférentes à ces choses-là, puisque c'est quand même, on l'a dit tout à l'heure, des millénaires qu'on a posé des questions, qu'il n'y en a plus. Alors, bon, c'est faux de deux façons. D'abord, il y a encore beaucoup de questions, par exemple, en théorie des nombres, simplement sur les nombres entiers, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les autres, il y a encore énormément de questions, par exemple sur les nombres premiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un nombre premier, c'est un nombre qu'on ne peut pas écrire comme un nombre entier qu'on ne peut pas écrire comme le produit de deux nombres entiers plus petits. Et on peut par exemple demander combien il y a de nombres entiers. Alors bon, ça, on sait depuis Euclide, peut-être plus longtemps que ça, qu'il y a une infinité, ce qui n'est pas a priori évident. on aurait pu s'imaginer qu'il existe le plus grand nombre entier. Il serait très célèbre s'il existait, mais il n'existe pas. Au-delà de tout nombre, pardon, j'ai dit entier, premier, hein, au-delà de tout nombre premier, il y en a un autre. Mais on peut demander quelle est leur fréquence d'occurrence et des choses comme ça. Et donc il y a énormément de questions autour des nombres premiers qui se composent encore aujourd'hui. Il y a eu des résultats, par exemple, par Andrew Wiles en 93, qui ça a été beaucoup médiatisé parce qu'il a résolu une conjecture de Fermat. Sur les nombres. Et donc, il y a encore énormément de questions à poser. Ça devient très technique quand on commence. C'est pas forcément très technique pour les expliquer, mais il faut quand même au moins une télé plutôt qu'une radio, peut-être. Mm-hmm. Donc, il y a énormément de questions. Alors après, la question, c'est est-ce que ces questions sont intéressantes ?
La priorité, alors, la hiérarchie de l'urgence à faire ?
Oui, oui. Alors, il y a des gens qui se disent, bon, est-ce que ça sert à quelque chose ? Mm-hmm. Et c'est une question intéressante. L'utilité des mathématiques, l'utilité des sciences en général. Et sur ce point-là, j'aime bien citer quelqu'un qui est populaire parmi les mathématiciens. C'est Henri Poincaré qui disait, je ne dis pas que la science, ou les mathématiques, mais la science est utile parce qu'elle nous permet de construire des machines. Mais que les machines sont utiles parce qu'elles nous laissent plus de temps pour faire de la science. Donc, d'emblée, on peut se dire, est-ce qu'on ne peut pas simplement apprécier une activité comme les mathématiques, comme la physique, comme l'astronomie, parce qu'elle nous apporte intellectuellement, l'homme s'interroge sur son environnement et c'est l'homme qui questionne. Ouais. Et puis, mais par ailleurs, bien sûr, on peut demander aux sciences d'être utiles. Et les mathématiques sont aussi un outil de pensée et se rendent donc utiles dans les sciences, dans la technologie, dans le monde financier, bancaire, l'évaluation du risque, etc. Donc il y a une utilité des mathématiques qui est évidente et que.
Pour le chercheur, pour le professeur ou pour l'étudiant, qu'est-ce qui peut séduire dans les mathématiques ? La rigueur, la précision ?
Oui, c'est-à-dire beaucoup de mathématiciens, donc professionnels, disons, ont été attirés par les mathématiques pour ces raisons-là. Ils aiment la rigueur de la pensée, la certitude qu'on obtient quand on a démontré quelque chose, l'impression d'avoir une vérité universelle, absolue, inébranlable, encore que ça se discute sur le point de vue philosophique. Il y a aussi la notion de beauté. La plupart des mathématiciens trouvent les mathématiques très belles, les perçoivent comme un univers vaste. D'ailleurs, donc ça revient un peu à la question précédente. Donc, un univers vaste et largement inexploré, dans lequel l'imagination joue un rôle important, parce que les objets mathématiques, ce n'est pas que les nombres ou les formes. Il y a des structures qu'on invente, des structures mathématiques.
Oui, par exemple, les nombres imaginaires, ça m'a toujours assez...
C'est un bon exemple, oui. Oui, c'est une extension de la... Il y a d'abord le nombre entier, 1, 2, 3...
Et même le nombre zéro, au départ, pas facile à trouver.
Oui, le zéro. Puis les notions de l'infini, les différentes notions de l'infini. Qu'est-ce que ça veut dire que deux collections ont le même, ou des ensembles, on dit en mathématiques, ont le même nombre d'éléments, les différents types d'infini. Donc il y a énormément de choses différentes. Donc c'est un univers vaste, et le mathématicien est attiré à la fois, donc... Il y a une grande liberté de penser en mathématiques, en fait, parce qu'on a le droit d'inventer tout. On peut être donc amené, en étudiant certains problèmes mathématiques, à en formuler d'autres, à généraliser. Il y a une liberté totale de penser, l'imagination joue un grand rôle, et à la limite, beaucoup plus que dans les sciences de la nature, où quand même le physicien, il étudie, il a le monde qui nous entoure, et il est obligé, entre guillemets, de faire des recherches qui ont affaire à ce monde qui nous entoure. Tandis que le mathématicien a une liberté poétique totale, qu'il réclame souvent et qu'il ressent très fortement. Alors, ce n'est pas du tout, bien évidemment, l'image que le non-mathématicien a des mathématiques. En général, ça m'arrive régulièrement et ça arrive à tous mes collègues. On rencontre quelqu'un pour la première fois, on dit « Ah, comment vous appelez ?»« Ben, c'est Stéphane, enchanté. » Et puis, « Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Alors, vous dites « Je suis mathématicien. » On a le droit à deux réactions. Soit la personne recule de deux poids, horrifiée, devient pâle et change de sujet, soit il se met à genoux et se prosterne exalté et avec un respect exagéré, pensant que vous êtes un espèce de génie ayant survécu à la sélection, à de longues années d'études dans un domaine aride et horrible. Mm. Et donc la perception des mathématiques par les mathématiciens est très différente, souvent, de la perception des mathématiques par le non-mathématicien, par le non-expert.
Est-ce que, pour certains, hein, mais bon, là vous allez peut-être me rassurer, est-ce qu'il y a un risque que les mathématiques conduisent à une certaine folie ?
Non. Pas plus qu'autre chose.
Bon, ça
donc,
rassure.
Donc je dirais...
On peut engager les jeunes à faire de la mathématique.
Oui, je vais dire différemment, oui, autant que toute autre chose.
D'accord.
Peut-être plus que...
Il n'y a pas un risque d'isolement, d'enfermement intellectuel ou même de contact ?
Bon, là, c'est une question... J'en ai parlé hier avec une collègue, justement, parce que il y a l'image du mathématicien replié, un peu le professeur tournesol qui est déconnecté de la réalité, qui est dans sa bulle et qui fait sa pensée... Il peut y avoir de ça. Il y a une partie des mathématiques qui permet donc, qui nécessite même une pensée intense, solitaire. Mais comme ma collègue me faisait remarquer, si on est, c'est propre à tout acte de créatrice. Si vous prenez beaucoup de peintres, de poètes, ils sont souvent aussi à un moment ou à un autre, pendant les périodes les plus intenses de création, ils s'isolent. Donc si on compare à d'autres activités intellectuelles, je dirais que non. Maintenant, si vous comparez, comme je le fais parfois, un commercial d'une entreprise, bon, il sera peut-être un peu plus expansif de nature que le mathématicien moyen. Mais ça vient aussi avec le territoire, je dirais.
On ne peut pas ranger la mathématique ou les mathématiques au rang des pratiques addictives ?
Si, mais comme toutes les sciences, je pense que vous prenez un chimiste ou un astronome ou un physicien ou un biologiste, ils sont tous passionnés par les recherches qu'ils font et c'est addictif. Oui, si, mais pas plus qu'une autre activité intellectuelle de ce type.
Alors, si on reprend dans le temps, est-ce qu'il y a eu des recherches qui ont été faites, qui ont été abandonnées et reprises et réussies brillamment par des équipes qui ont voulu refouiller l'histoire de la mathématique et qui ont retrouvé des théorèmes à démontrer ou des choses comme ça ?
Sûrement, je dirais, mais bon, je pense que l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, elle a peut-être jamais été abandonnée. La recherche donc de démontrer le théorème de Fermat a été fait donc par Wiles en 93. Je pense pendant de longues années, les gens ont pensé qu'il n'y avait pas de piste, pour aborder le problème. Et tout le monde, enfin les experts, ont toujours su que ce problème existait, surtout qu'il est facile à énoncer. Donc dans ce sens, il n'a pas été abandonné. Mais il y a certainement aussi des connaissances qui disparaissent. Ça, c'est sûrement vrai. Il y a des choses qui ont été développées au 19e siècle et qui ne font plus partie de ce que le professionnel, le mathématicien professionnel aujourd'hui maîtrise. J'ai pas d'exemple précis tout de suite comme ça.
De la culture générale.
Non, parce que le développement, c'est vrai en physique aussi. Le développement des connaissances est tellement énorme que plus personne n'est capable de tout savoir, même dans un domaine donné. La culture générale glisse vers d'autres problématiques. Et parfois, en effet, on découvre que certains outils qu'on a oubliés sont disponibles et on les retrouve dans les livres. Et on les retravaille pour les adapter aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Et ça, sûrement, oui. Mais ça, c'est vrai dans les autres sciences aussi. Il y a avec le développement en physique de la mécanique quantique, de la relativité générale, etc., il y a d'autres branches de la physique très, très développées au 19e siècle qui ont été un peu oubliées. C'est normal.
Alors, est-ce que les outils technologiques, les instruments, entre guillemets, technologiques, apporte un réel plus ou c'est la pensée de l'homme qui est d'abord l'essentiel ?
Ah, c'est, oui. Ils apportent évidemment beaucoup. Les ordinateurs ont aidé à développer les mathématiques parce que pour formuler les questions, pour deviner les comportements des objets, ou des solutions, on cherche des solutions de certaines équations. On ne sait absolument pas les écrire explicitement, donc on essaie de s'imaginer comment ils vont se comporter. Mais alors, si on peut les calculer approximativement avec un ordinateur, on en a des représentations approchées, mais visuelles, et ça aide à développer la pensée et à donc conjecturer quelles sont les pistes à creuser. Et donc oui, dans ce sens-là, évidemment, l'ordinateur a contribué énormément. Ceci dit, il y a aussi des preuves assistées par ordinateur dans certains cas, mais en général, quand même, le cerveau de l'homme et l'activité, donc l'imagination, le choix du sujet, reste éminemment une activité qu'on ne peut pas algorithmiser. L'activité créative mathématique, on ne peut pas l'algorithmiser, pas plus que l'écriture d'un livre.
Mmh. Alors, il y a un certain nombre de jeux mathématiques grand public ou moins grand public. L'informatique en propose certains, enfin on peut en trouver un peu sur Internet ou ailleurs. Est-ce que ces jeux amènent les gens à développer leur potentialité ou est-ce qu'ils ne font que révéler des choses qui étaient déjà en place ou...
Non, certainement, le jeu est une façon d'aborder les mathématiques. Moi, j'aime bien dire que les mathématiques sont comme... qu'est-ce qu'on dit ? C'est comme le tiercé, on joue comme on aime. Mm-hmm. On peut aimer les mathématiques pour leur beauté, pour la rigueur de la pensée, mais aussi pour l'aspect jeu. Il y a certainement beaucoup de gens qui sont attirés. Il y a des gens qui aiment bien les énigmes, en mm-hmm. général. Mm-hmm. Juste des énigmes bêtes ou pas bêtes. Et donc, on peut poser des petits puzzles mathématiques et ça peut attirer vers la mathématique, en particulier les jeunes. Mais... C'est une source de mathématiques, une source quand même d'inspiration, une approche des mathématiques qui est fertile, oui.
Alors, est-ce que justement...
Il y a aussi, excusez-moi de vous interrompre, il y a aussi la théorie des jeux qui joue son rôle, par exemple, dans les sciences sociales, en économie. Donc, quand on a des partenaires qui doivent négocier, etc., on appelle ça la théorie des jeux, l'évaluation des risques, etc., une espèce de mathématisation de la négociation. Donc, il y a des développements dans ce sens aussi.
Mm-hmm. Est-ce que vous pensez que... D'une manière générale, dans l'éducation nationale, la présentation, l'approche mathématique est suffisamment ludique pour permettre ou donner l'envie à des jeunes gens de poursuivre dans une activité peut-être plus cérébrale ou plus structurée, ou vous pensez que tout va très bien en ce moment ?
Je ne pense certainement pas que tout va très bien. Ceci dit, je n'ai pas les réponses toutes faites. De l'avis général des mathématiciens, les mathématiques sont... comment dire, les programmes de mathématiques des collèges et lycées ne sont pas bien conçus. Maintenant, c'est extrêmement difficile aussi, parce que justement pour faire... Il y a un savoir-faire à développer. Il faut savoir quand même calculer un peu pour survivre dans le monde moderne. Il faut savoir ajouter, diviser, etc. Donc c'est pas forcément très... très fascinant d'apprendre comment calculer. Après, quand on va un peu plus loin, pour mettre en évidence à la fois l'intérêt du sujet, c'est-à-dire motiver les questions posées, développer un tout petit peu de technique pour aborder le sujet, et puis encore s'adresser à un large public dont un certain nombre sont peut-être moins doués pour les mathématiques, ça pose des problèmes quand même très très compliqués. Donc ce n'est pas facile de développer des programmes très intéressants. En même temps, nous pensons tous qu'on peut mieux faire. Alors, ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, en particulier ici à Lille, mais c'est vrai dans presque toutes les universités françaises aujourd'hui et même partout dans le monde, il y a un effort considérable de communication qui est fait par les mathématiciens vers la société, les non-mathématiciens, en particulier vers les lycéens et les collégiens. Et donc on a, si vous allez sur le site web de l'UFR ou de l'IREM, vous trouverez un tas d'exposés grand public qui ont été développés par mes collègues ici, justement dans lesquels on prend une heure ou deux heures pour motiver un certain problème, puis le résoudre avec des outils mathématiques relativement simples, mais ça demande toujours quand même une pensée un peu concentrée. Et donc pour faire voir à la fois la beauté l'intérêt de la chose, la beauté de la chose, et en comment les mathématiques sont un outil de pensée, etc. Et donc, justement, pour briser un peu cette image d'Épinal d'une chose, d'une discipline aride, c'est une image qui vient du fait que centrale dans les mathématiques sont à la fois l'axiome et la démonstration. Et l'impression que les gens souvent ont souvent, c'est qu'une fois qu'on a les axiomes et on sait comment raisonner, le reste, ce n'est que, il n'y a qu'un déroulement automatique, tandis que il faut aussi décider ce qu'on va démontrer, par exemple, et dans quelle direction chercher, etc. Et donc, pour cela, il y a un effort considérable de fait, donc, par nous ici, mais aussi, par exemple, le CNRS émet toutes les années une brochure, ce qui s'appelle, je crois, Images des mathématiques, dans laquelle on trouve des textes de vulgarisation, sur les métiers des mathématiques aussi, etc. Donc, il y a un effet de fait par les mathématiciens pour mieux communiquer et briser un peu les images un peu négatives qu'on trouve parfois dans la société des mathématiques.
Alors, est-ce que l'effort fourni ou à fournir par un jeune par rapport aux mathématiques pour arriver à un résultat ou pour éventuellement envisager une carrière en mathématiques est facilité par exemple auprès d'une population qui serait surdouée?
Bon, écoutez, on peut être surdoué en musique, on peut être surdoué en mathématiques, comme on peut être surdoué dans beaucoup d'autres, en foot ou en d'autres. Donc bien sûr, si on a un talent, ça veut dire en gros qu'on a une grande efficacité. C'est que quand on réfléchit une heure à quelque chose, on a avancé plus que quelqu'un d'autre qui réfléchit trois jours. Donc bien sûr, si on est doué pour une chose, si on a un talent naturel pour une certaine activité, quelle qu'elle soit, on va plus vite habiller. Mais le mot surdoué, il faut dire en quoi, je veux dire, mm-hmm. Bien sûr, il y a des gens qui sont exceptionnellement doués pour les maths, pour la physique, pour la chimie, pour la peinture, pour un tas d'autres choses.
Alors, est-ce qu'il y a un intérêt à mettre en place un accompagnement des jeunes qu'on trouverait surdoués en mathématiques?
En général, quand les gens sont vraiment surdoués, il faut un accompagnement global pour éviter que... pour qu'ils développent tous les aspects de leur personnalité et deviennent des adultes équilibrés, et c'est indépendant de la discipline. Encore une fois, je me répète un peu, mais... Mmh. Et bien sûr, il y a des gens extraordinairement doués s'ils... pour qu'à long terme, ils continuent à... qu'ils produisent des mathématiques intéressantes ou de la physique intéressante. À long terme, je veux dire, s'ils peuvent faire une vie de chercheur, il faut surtout aussi qu'ils ont une vie équilibrée. Donc ce genre d'accompagnement, il doit être à la fois dans la discipline, mais aussi psychologique. Le vieux adage, un esprit sain dans un corps sain, ce genre de choses.
Tout à fait. Si on revient à l'université de Lille, est-ce que cette université a une spécificité, une spécialité en mathématiques ou elle est polyvalente?
Mais je pense qu'on peut dire que heureusement nous sommes polyvalents. Aujourd'hui à Lille, donc il y a un grand, les mathématiciens de Lille sont presque tous regroupés dans un grand laboratoire qui s'appelle laboratoire Paul Painlevé, qui regroupe quasiment l'ensemble des chercheurs et des enseignants-chercheurs. Certains sont, par ailleurs, pour leur enseignement, rattachés à l'UFR de mathématiques, évidemment, mais d'autres sont à l'UFR d'économie, à l'IAE, à l'école polytechnique, etc., où ils font leurs enseignements, mais pour la recherche, presque tous regroupés dans le laboratoire Paul Painlevé, il est divisé en 5 composantes, mais le résultat, c'est que, comme on est nombreux, il y a un large spectre des mathématiques représentées, un grand nombre de disciplines en maths pures, comme un grand nombre de disciplines en maths appli sont représentées. S'ajoute à cela que le laboratoire fait partie d'une fédération de recherche, la Fédération de recherche mathématique du Nord, qui regroupe les autres laboratoires de mathématiques des universités de Valenciennes, de Calais, et d'Artois, Lens. Et donc, ça fait quand même une communauté très, très large qui travaille ensemble à la fois sur le plan de la recherche. Nous avons aussi une belle bibliothèque juste en face ici, la bibliothèque donc, de recherche mathématique, et aussi au niveau des formations, parce que les formations et certaines de nos formations, en particulier au niveau du master, sont cohabilitées. Et donc, à la fois nos collègues viennent enseigner ici, dans ces formations. Nos collègues des autres universités viennent enseigner ici, et les étudiants viennent aussi ici, pour leur, par exemple, pour le M2. Et donc, ça fait une grande communauté qui représente un grand nombre de domaines mathématiques, à la fois purs et appliqués.
Qu'est-ce que vous pensez des classes spécialisées, MathSup, MathSp?
On a encore 2 heures, là.
Non, il reste 2 minutes 30.
Si vous me lancez là-dessus, donc je vais essayer d'être bref. C'est un système typiquement français qui a comme résultat que, à la sortie du lycée, les meilleurs d'une classe d'âge ne vont pas à l'université. Ils y reviennent parfois après. Mais au moment de sortir, pour des raisons historiques, à cause de la façon dont l'orientation est faite, etc., les jeunes, et aussi pour des raisons, les parents qui s'inquiètent par rapport aux universités, etc. Parfois, il y a des images vieilles de plusieurs dizaines d'années qui persistent et qu'il faut briser, d'ailleurs. Donc, ceux qui ont le mieux réussi leurs études au niveau du bac ont tendance à partir dans la classe préparatoire, ce qui nous prive d'un certain nombre de très bons étudiants, ce qu'on peut regretter. Donc moi, je suis un avocat pour le rapprochement, du rapprochement entre les classes préparatoires et les universités. Ça ne veut pas dire qu'il faut tuer un système pour favoriser un autre, mais il faut rapprocher les deux systèmes, je pense, pour favoriser en effet l'insertion. Si on veut motiver les jeunes pour faire la recherche, et je ne parle pas que des maths, hein, je parle des sciences en général, donc si on veut motiver les jeunes pour la recherche, il faut les mettre en contact avec la recherche et les chercheurs dès le départ. Et donc il faut trouver un moyen de briser un peu ce monopole des classes préparatoires.
Donc voilà un de vos souhaits. Si vous en aviez un deuxième à formuler avant de conclure en quelques secondes.
Mais c'est déjà pas mal. Je pense que... Ah oui, j'ai un deuxième. J'appelle de mes souhaits depuis longtemps, je ne suis pas le seul ni le premier, un moratoire sur les réformes. Je pense que les universités françaises ont besoin de calme pour pouvoir identifier les problèmes là où ils sont et pour pouvoir après les résoudre. La mise à plat qui est à la mode, la mise à plat et la refonte totale des systèmes tous les 3 à 4 ans est néfaste pour le développement du monde de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est particulièrement intense en ce moment, mais ce n'est pas nouveau.
Stéphane Debièvre, je vous remercie.
Je vous remercie.